en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, il y avait un petit coin de Chine lors de cette séance de l'Académie des sciences. En effet, la Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications avait invité le professeur chinois en hématologie, monsieur Chen Zhu, à venir s'exprimer. Hématologue de renom, le professeur Chen a énormément contribué à l'avancée des thérapies moléculaires pour le traitement des cancers. Francophone, le professeur Chen a fait une partie de ses études à l'hôpital Saint-Louis à Paris, comme interne étranger des hôpitaux de Paris. En 97, il est le premier non-français à obtenir le prix de l'Oise de la Ligue nationale contre le cancer et en 2002, il est décoré chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Également vice-président de l'Académie des sciences de Chine, c'est dans un français parfait qu'il est venu s'exprimer sur la nécessité d'une coopération de l'Académie des sciences française et chinoise dans le domaine de la science du vivant et de la biotechnologie. On l'écoute.
Permettez-moi tout d'abord de faire une rétrospection. Quand nous parlons de la coopération scientifique et technique sino-française, nous n'avons pas perdu de vue les succès retentissants enregistrés à partir de la première moitié du siècle dernier. Nous pouvons citer celle dans le domaine de la science, de la matière et des mathématiques qui a été la plus porteuse, par exemple, le docteur Chen Shanqiang, qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans le laboratoire de Curie, deviendra plus tard le père de la recherche de physique nucléaire de la Chine nouvelle. Cependant, sur le plan de la biomédecine, cette coopération avait commencé encore plus tôt. Dès le début du siècle dernier, l'Université de l'Aurore de Shanghai et la filière de l'Institut Pasteur à Shanghai à l'époque avait contribué aux échanges sino-français dans les domaines de la médecine biologique et de la santé publique en formant de nombreux spécialistes. En 1964, les dirigeants de la première génération de la Chine nouvelle, Mao Zedong et Zhou Enlai, de concert avec le général de Gaulle, ont pris une décision très importante pour le réétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. L'événement s'est inscrit dans l'histoire du monde contemporain. Monsieur Deng Xiaoping a poussé de toutes ses forces la coopération sino-française, même au moment difficile de sa carrière politique, c'est-à-dire pendant la Révolution culturelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début du nouveau développement de la Chine vers la fin des années 70, les priorités de la coopération scientifique et technique sino-française s'orientaient plutôt vers la science du vivant. Je cite ici comme exemple la coopération entre l'Institut Pasteur et l'Institut de biochimie de l'Académie des sciences de Chine à Shanghai. Ces deux instituts ont organisé les premiers cours de formation à la biologie moléculaire et ont lancé des recherches sur l'hépatite B. Ici, on trouve M. Thiolé, il y a 27 ans. Et puis, on voit même le jeune Christian Bréchaud en bas, qui est maintenant, bien sûr, le directeur général de l'INSERM. Et la coopération entre parasitologues chinois et français ont contribué aux applications à grande échelle de praziquantèle pour contrôler la maladie de schistosome japonicon. Bien sûr, je dois citer le nom du professeur André Capron. La coopération entre les... Il existe aussi une très bonne collaboration entre les scientifiques de nos deux pays sur les épidémies de tumeurs et de sida. La coopération entre les milieux médicaux a fait des percées sur les connaissances du mécanisme de la régulation de l'hémostase et de la genèse du vaisseau. Bien sûr, il s'agit d'une collaboration entre professeur Jacques Kang et professeur Chang Kun-Ruan, et professeur Chong Chang Han, qui sont tous les deux directeurs de l'Institut de climatologie à Suzhou et à Tianjin. Je me réjouis d'avoir été témoin du développement historique de la coopération sino-française dans le domaine des sciences du vivant, surtout de la biomédecine, depuis le milieu des années 80. Ma carrière dans la science médicale a débuté effectivement dans deux écoles. L'une est la faculté de médecine de l'université de Chiao Tong de Shanghai, ex-université de médecine numéro 2 de Shanghai, qui a hérité l'enseignement médical en langue française de l'université de l'Aurore de Shanghai. C'est elle qui m'a amené dans la voie de la clinique et de la médecine expérimentale. L'autre école, c'est l'hôpital Saint-Louis de l'université de Paris 7, où j'ai soutenu avec succès ma thèse de doctorat. Ma seconde école, qui m'a orienté vers la recherche sur l'hématologie et la biologie moléculaire moderne. Il est à remarquer que c'est grâce aux efforts conjugués par les trois générations de scientifiques de ces deux universités depuis un quart de siècle que la leucémie aiguë promyélocytaire, considérée autrefois comme la forme la plus maligne des leucémies, devient une des leucémies qui pourrait avoir la plus grande chance d'être guérie. Voici la courbe de survie en haut chez une série de patients atteints de leucémie aiguë promyélocytaire qui ont été traités par une combinaison de la citrétinoïque et la sonique, donc avec une survie plus de 90% par rapport à la courbe en bas traitée uniquement par la citrétinoïque et la chimiothérapie il y a quelques années en Chine. Entre 1999 et 2000, j'ai eu le plaisir de soutenir le professeur Jacques Kahn et le professeur Gilles Kahn pour créer la Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications, la FFCSA. Ensuite, j'ai formulé la proposition de la création du pôle sino-français de recherche en sciences du vivant et génomique de Shanghai. En 2000, j'ai été nommé vice-président de l'Académie des sciences de Chine pour assister au président Lu Yongxian dans les sciences du vivant et la coopération internationale de l'Académie. Depuis, les contacts et les collaborations avec nos amis français se multiplient de jour en jour sur le plan non seulement bilatéral, mais aussi multilatéral. C'est bien au niveau de l'IAP que j'ai grand plaisir de travailler avec professeur Yves Guéret, co-président de l'IAP. Au moment critique où la Chine était en face de l'épidémie de SRAS, nous étions profondément émus par les soutiens du peuple français et de la communauté scientifique française. La coopération sino-française dans les domaines de la prévention et du contrôle des maladies contagieuses émergentes est tenu en compte dans les décisions stratégiques au niveau le plus élevé. Au cours des années croisées, Chine-France, proposées par les dirigeants de nos deux pays, un grand nombre de projets de coopération ont été mis en route. Dans ces projets de coopération entre l'Académie des sciences de Chine et l'Académie française, ainsi que les organismes de recherche et les universités de France, je me contente de citer seulement à titre d'exemple, le démarrage avec succès de l'Institut Pasteur de Shanghai et la mise sur pied du laboratoire en haute sécurité biologique à Wuhan. Quand on parle avec joie de tous les développements de notre coopération, nous pensons tout naturellement aux éminents scientifiques prédécesseurs qui avaient frayé la voie de la coopération dans le domaine des sciences du vivant entre nos deux pays. Ici, je voulais surtout mentionner le nom de professeur Quan Quan, qui était ancien interne des hôpitaux de Paris dans les années 1930, ex-vice-président de l'Université de médecine Shanghai 2 et mes pensées vont aussi à professeur Gilles Kahn qui a joué un rôle très très important dans la coopération sino-française et dans l'établissement de la fondation franco-chinoise pour la science et ses applications qui malheureusement nous a quittés il y a peu de temps. Chers confrères et consoeurs, mesdames et messieurs, la coopération sino-française dans le secteur de la science et de la technologie se trouve aujourd'hui à l'âge d'or. Comme vous le savez, le gouvernement et la communauté scientifique et technique chinoise soutiennent depuis toujours le programme ITER et la France pour le site de cette installation. La Chine est devenue aussi un des collaborateurs importants du programme Galileo. Tout récemment, le gouvernement chinois a décrété et mis en vigueur les principes directeurs du programme national pour le développement scientifique et technique à moyen et long terme, c'est-à-dire à partir de 2006 jusqu'à 2020, afin que la Chine se tienne vers 2020 dans le rang des pays d'innovation. Et il est estimé que l'investissement à la recherche et au développement sera au-delà de 2,5% de PIB en année 2020. Parmi les disciplines prioritaires déterminées par les principes directeurs du programme, la science du vivant et la biotechnologie qui vont de l'agriculture, la démographie et la santé jusqu'à l'environnement, l'énergie et les ressources d'eau occupaient une place relativement importante. En ce qui concerne la recherche fondamentale, parmi les quatre grands projets, on trouve deux en relation avec les sciences du vivant, c'est-à-dire la science des protéines et la biologie du développement et de la reproduction. D'ailleurs, l'importance à élargir les coopérations et les échanges scientifiques internationaux et régionaux a été soulignée. Alors, je voudrais maintenant insister qu'il existe des avantages mutuels dans la coopération des sciences du vivant, des technologies concernées et du secteur industriel. Ayant la population la plus nombreuse dans le monde et au tournant de la modernisation de la société, le marché chinois a un grand besoin des produits de la santé, ceux de l'agriculture, de l'environnement et ceux des énergies et matériaux renouvelables. Les ressources humaines intellectuelles abondantes en Chine se transforment au fur et à mesure du développement du système de la science et de l'enseignement en ressources de connaissances et de technologies. La médecine traditionnelle chinoise, très originale, ainsi que son système physiologique, s'intégreront dans le courant de la médecine mondiale en suivant le processus de la modernisation et de l'internationalisation. La France est un des pays occidentaux les plus importants. Elle est dotée à la fois d'une civilisation resplendissante et d'un esprit d'innovation où la biomédecine et l'agriculture sont très développées, avec une industrie biologique, un système complet de recherche en biologie, médecine et agriculture. Nos collaborations profiteront ainsi bien à l'une partie qu'à l'autre. Je voudrais saisir cette occasion pour vous donner une brève présentation sur l'Académie des sciences de Chine en tant qu'un organisme public de recherche au niveau national pour les sciences naturelles et le développement de la haute technologie. La CAS, CAS se charge de la recherche scientifique, du développement technique, du transfert de la technologie et de la formation du personnel. Les départements académiques, composés de 702 académiciens, constituent la matière grise de la politique scientifique et technique de la Chine. Soutenue par l'État, l'Académie des sciences de Chine a démarré en 1998 le programme d'innovation de connaissances avec un budget triplé. Elle a entrepris la réforme la plus profonde sur le plan général, un ajustement de l'encadrement des disciplines en focalisant les objectifs scientifiques, a introduit le mécanisme d'évaluation plus scientifique, attiré et formé les talents, renforcé la construction de la culture d'innovation, la coopération avec les organismes de recherche, des universités et des entreprises du pays ou de l'étranger a été renforcée, élevant ainsi la capacité de production de la science et celle de la fourniture des supports scientifiques et techniques pour le développement de l'économie et de la société du pays. En ce qui concerne l'ajustement de la structure stratégique, la CAS a accordé ses soutiens particuliers à la science du vivant et à la biotechnologie. Elle a renforcé surtout le secteur de biomédecine et a obtenu de nombreuses réussites dans des domaines comme le génomique, les protéines, la neuroscience et la cognition, la découverte et le développement des médicaments, la protection de la biodiversité et les utilisations durables. Chers confrères et consœurs, mesdames et messieurs, la CAS et l'Académie des sciences de France sont les réservoirs de pensée scientifique au niveau le plus élevé dans nos deux pays. Ainsi, grâce à nos efforts conjoints, il sera tout à fait possible de créer de multiples occasions de la coopération sino-française dans le domaine de la science du vivant. Pour cette raison, il serait souhaitable d'établir le dialogue stratégique de haut niveau entre les deux académies. Actuellement, la science du vivant se développe dans un sens quantitatif et vers sa systématisation. D'autre part, la combinaison de la science naturelle avec la philosophie et la science sociale stimulera le développement de chacune des trois. Elle stimulera aussi celui de l'éthique biologique. La Chine et la France ont créé en commun deux laboratoires intitulés LIAMA et la Biocène à Pékin, un laboratoire conjoint sur la catalyse à Dalian, un pôle à Shanghai. Je propose aux scientifiques travaillant dans le cadre de la coopération sino-française de se rassembler autour de ces plateformes, d'organiser des journées sino-françaises, des réseaux scientifiques et technologiques pour développer et améliorer les liaisons afin de stimuler les interactions et les croisements entre les disciplines différentes. En consolidant des plateformes comme le noyau des réseaux, nous espérons accueillir un plus grand nombre de spécialistes français de haut niveau en Chine en vue d'un séjour relativement long pour des recherches en commun, réalisant ainsi un taux d'échange équilibré des scientifiques et techniques sino-français. Certes, dans les échanges scientifiques et la collaboration technique, le secteur public se rapproche souvent de l'industrie. Intensifier la coopération entre des industries de biotechnologie de nos deux pays par un mécanisme de consortium de la production, de l'éducation et de la recherche pour renforcer la compétitivité de l'industrie de biopharmaceutique au service de la société, c'est bien notre souhait en commun. Ces dernières années, le gouvernement chinois a beaucoup travaillé à la protection de la propriété intellectuelle dont la législation est dans la bonne voie. Il nous faut, bien entendu, continuer à travailler là-dessus. La protection de la propriété intellectuelle est non seulement pour améliorer l'environnement de l'investissement, mais aussi comme un dynamisme pour l'innovation autonome de connaissances et de techniques. Si je me souviens bien, le premier brevet au monde a vu le jour en France. C'est justement sur ce plan-là qu'il y aura une belle perspective de coopération sino-française quant au transfert de technologies et de savoir-faire. La communauté de biotechnologie de Chine prête une grande attention au forum de Biovision. À partir de 2005, la Chine organise régulièrement le forum qui s'appelle Bioéconomie. La CAS est un des initiateurs de ce forum. J'espère que ces deux forums établiront un dialogue stratégique bénéfique pour les deux pays. En Chine, un vieil adage se dit « Il faut 10 ans pour faire pousser un arbre et 100 ans pour former des hommes ». À mon avis, l'organisation des colloques, des jeunes scientifiques et la formation des post-docs par la FFCSA et les autres voies entreprises ces dernières années par les deux académies sont des démarches prévoyantes et stratégiques. Il faut continuer là-dessus et élargir leur envergure et leur influence. Néanmoins, il y a encore une grande potentialité et de l'espace pour former conjointement de jeunes scientifiques et des étudiants en troisième cycle. J'espère que la coopération sino-française dans le domaine de la vulgarisation scientifique et dans le système d'éducation en faveur de la formation de talents innovants prendra un essor grâce aux efforts communs de deux parties. Et ceci pour garantir une bonne continuité de notre coopération scientifique et technique. D'autre part, le problème de l'autodiscipline et le respect de la morale scientifique au sein de la communauté scientifique et technique, y compris des membres de l'Académie, pourra aussi être un sujet de coopération entre nos deux académies. Seule une recherche scientifique autodisciplinée et responsable envers la société pourrait être reconnue et soutenue par le public. Enfin, je formule les vœux que les amitiés entre les deux académies et les deux communautés scientifiques et techniques soient éternelles comme le fleuve Yangtze et la Seine qui s'écoule sans cesse. Merci infiniment de votre attention.
Et c'est sur cette note poétique que le vice-président de l'Académie des sciences chinoises et professeur en hématologie, M. Chen Zhu, termine son intervention. Une communication sur la nécessité d'entretenir des échanges entre académies de différents pays, et notamment avec la France. Pour en savoir plus sur le professeur Chen Zhu, vous pouvez vous connecter au site internet de l'Académie des sciences chinoises au www.cas.ac.cn. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Canal Académie.